Chapitre 11. Le lendemain de l'entrevue des deux voyageurs qui s'étaient rencontrés au Brésil, la scène suivante se passait dans la maison de la rue de Vaugirard 57 au quatrième étage. 3h15 du matin venait de sonner dans le lointain. Un jeune homme, d'une beauté remarquable, écrivait à la lueur d'une petite lampe. Avons-nous besoin de dire que ce personnage était M. Michel Renaud, cet excellent mais silencieux locataire qui sortait régulièrement de chez lui chaque matin avant 4h et ne rentrait jamais qu'après minuit. Michel Renaud écrivait donc à la lueur de sa lampe, alignant sur un de ces gros registres adoptés dans le commerce une foule de chiffres et d'indications qu'il transcrivait au net, d'après d'autres cahiers assez mal en ordre. Il s'occupait en un mot d'écriture de commerce. Deux ou trois fois, cet aride et fastidieux labeur appesantit les yeux et les mains de Michel, mais il surmonta bravement ses velléités de somnolence, ramena la couverture de laine dont il avait enveloppé ses jambes et ses pieds afin de se réchauffer, souffla dans ses doigts roidis par le froid et reprit son travail. Il n'y avait pas de feu dans cette petite chambre, l'atmosphère y était glaciale et les carreaux opaques scintillaient de dessins bizarres formés par la gelée. Malgré ce qu'il y avait de pénible dans cette occupation accomplie durant une rude nuit d'hiver, la physionomie de Michel exprimait autant de satisfaction que d'heureuse quiétude. Lorsque le dernier quart de 3h eut sonné, le jeune homme quitta sa table, puis la figure affectueuse et souriante comme celle de quelqu'un qui s'apprête à présenter un bonjour amical, il alla vers sa cheminée avec empressement, et du manche de son couteau de buis, il frappa deux petits coups sur le mur mitoyen qui séparait la maison qu'il habitait de la maison voisine. Presque aussitôt, deux autres coups lui répondirent. Michel sourit alors avec une expression de satisfaction aussi grande que si on lui eût adressé les paroles du monde les plus agréables. Il s'apprêtait sans doute à y répondre, car déjà il levait le manche de son couteau lorsqu'un petit coup léger, presque mystérieux, suivi de deux autres plus sonores, arrivèrent à son oreille. Michel rougit, ses yeux s'animèrent, il semblait éprouver un délicieux sentiment. On eût dit qu'il recevait une faveur aussi douce qu'inattendue. Ce fut donc avec l'expression d'une reconnaissance exaltée qu'il répondit par plusieurs battements aussi précipités que les violentes pulsations de son cœur. Cette batterie d'une passion désordonnée se fut sans doute prolongée pendant quelques secondes avec une furie croissante, si elle n'eût été subitement arrêtée net par un petit coup sec et bref qui retentit de l'autre côté de la muraille, comme une interruption impérative. Michel obtempéra respectueusement à cet ordre et suspendit la trop vive manifestation de son allégresse. Bientôt après, quatre coups bien distincts, lents, prolongés comme le tintement d'une horloge et accentués comme un signal, venant encore de l'autre côté de la muraille, mirent un terme à ce mystérieux entretien digne des abords d'une loge de francs-maçons. « Elle a raison, se dit Michel, voici bientôt 4h. » Et il s'occupa diligemment de ranger ses registres, de tout mettre en ordre, avant de sortir de chez lui et de faire, comme on dit, son ménage. Durant ces préparatifs, nous conduirons le lecteur au quatrième étage de la maison voisine, numéro 59, dans l'appartement de Madame de Lusval, séparé, nous l'avons dit, de celui de Michel Renaud par un mur assez épais. Cette jeune femme, âgée alors de 21 ans passés, était toujours charmante, mais son embonpoint avait un peu diminué. Florence s'occupait ainsi que son voisin de faire ses préparatifs de départ. Une lampe à réflecteur, très basse et très ardente, pareille à celle dont se servent les enlumineurs qui travaillent le soir, éclairait une grande table sur laquelle se voyaient pêle-mêle plusieurs belles lithographies à demi coloriées, des couleurs pour l'aquarelle étendues sur une palette de faïence, et plus loin, parmi des bandes de tapisserie commencées, des cahiers de papier à musique destinés à la copie de partitions. Plusieurs de ces cahiers étaient déjà remplis. La chambre, pauvrement meublée, était de la plus extrême propreté. Sur le petit lit, déjà soigneusement fait par Florence, l'on voyait son manteau et son chapeau. Tout en rangeant allègrement dans différents casiers les aquarelles coloriées, ses copies de musique et ses tapisseries, la jeune femme soufflait vaillamment dans ses jolis doigts rosés par le froid qui régnait avec autant d'intensité dans cet appartement que dans celui du voisin, car dans cette chambre il n'y avait pas non plus de feu. Notre paresseuse devait trouver un grand changement entre sa vie présente et sa vie passée, lorsqu'elle se rappelait le confort et le luxe de l'hôtel de Lusval, si favorable au développement de cette indolence dont elle faisait ses délices. Et pourtant, Florence semblait aussi heureuse que lorsque, plongée dans un moelleux fauteuil, les pieds sur le velours, elle jouissait de son cher Farniente, regardant nonchalamment, après avoir dormi sa grasse matinée, le soleil jouer dans les feuillages de son riant jardin, ou écoutant le murmure de la cascade mêlé au gazouillement des oiseaux. Oui, cette frileuse, cette dormeuse, qui autrefois passait des matinées entières à se dorloter, à se pelotiner comme une caille dans son nid, sous la tiède et pénétrante chaleur de l'édredon, ou à se chauffer à la braise ardente de son foyer, en entendant le grésil teinter sur la vitre sonore, ainsi que dit le grand poète, qu'elle lisait au fond d'un somptueux appartement, oui, cette indolente, qui regardait comme une fatigue de sortir dans une élégante voiture doucement suspendue, notre paresseuse, en un mot, ne paraissait pas le moins du monde regretter ses splendeurs évanouies. Ce fut au contraire en fredonnant gaiement qu'elle visita les ressorts de ses petits socs et qu'elle tira de son fourreau un léger parapluie, prête à braver neige, bise et froidure. Ces derniers préparatifs de départ terminés, Florence jeta un coup d'œil sur la glace de sa cheminée, passa le plat de sa main sur ses épais bandeaux de cheveux blonds, aussi luisants, aussi lustrés, malgré cette toilette matinale, que si une femme de chambre eût passé une heure à la coiffure de la jeune femme, puis, il faut avouer cette faiblesse, Madame de Lusval étendit, et comme on dit vulgairement, dédira ses deux bras, en renversant un peu son buste en arrière et laissant tomber avec langueur sa tête charmante sur son épaule gauche. Alors, Florence poussa un petit gémissement, plein de douceur et de câlinerie, qui semblait dire « Ah, qu'il me serait doux de rester dans un bon lit, bien chaud, au lieu de sortir à 4 heures du matin par ce vilain froid noir. » Il est impossible de peindre la grâce indolente de ce mouvement et la gentille petite moue qui, étouffant un léger bâillement, renfla pendant un instant les lèvres vermeilles de cette jolie créature. Mais bientôt, se reprochant sans doute ce paresseux regret et ce trop grand attachement à son réduit, bien froid cependant, Florence mit à la hâte son chapeau, s'enveloppa de son manteau, attacha ses socs à ses petits pieds, prit bravement son parapluie, alluma un modeste rad-cab, éteignit sa lampe et, légère, descendit rapidement ses 4 étages. À ce moment, 4 heures du matin sonnaient au Luxembourg. « Mon Dieu, déjà 4 heures !» murmura la jeune femme en arrivant au bas de l'escalier. Puis, de sa voix douce et fraîche, elle dit « Le cordon, s'il vous plaît !» et bientôt elle referma sur elle la porte de sa maison. L'on touchait à la fin de décembre. La nuit était très noire. Une bise glaciale soufflait dans la rue déserte, faiblement éclairée çà et là par les lanternes de gaz. Lorsque Madame de Lusval fut sortie, elle toussa légèrement et en manière de signal. Un plus mal lui répondit. Mais la nuit était si profonde que c'est à peine si Florence put apercevoir Michel qui, sorti de chez lui depuis quelques instants et posté de l'autre côté de la rue, venait de répondre ainsi à l'appel de sa voisine. Alors, tous deux, sans s'être adressés une parole, commencèrent de marcher parallèlement l'un à l'autre. Celui-ci sur le trottoir de gauche, celle-là sur le trottoir de droite. Une demi-heure avant que Michel Renaud eût quitté sa demeure, un fiacre s'était arrêté à peu de distance du numéro 57. Une femme enveloppée d'une pelisse était dans cette voiture et avait dit au cocher « Lorsque vous verrez un monsieur sortir de cette maison, vous le suivrez au pas, jusqu'à ce que je vous dise de vous arrêter. » Le cocher, ayant, grâce à la clarté de ses lanternes, vu Michel sortir et bientôt prendre le trottoir, le suivit en se maintenant au milieu de la chaussée au pas de son cheval. La femme, restée dans la voiture qui cheminait lentement, ne quittait pas Michel du regard, et ainsi, toujours occupée de ce qui se passait sur le trottoir de gauche, elle n'avait pu encore apercevoir sur le trottoir de droite Madame de Lusval. Celle-ci venait à peine de fermer la porte de sa maison, lorsqu'un homme enveloppé d'un vaste manteau, hâtant le pas comme quelqu'un qui craint de se trouver en retard, arriva rapidement sur le haut de la rue de Vaugirard. Cet homme n'avait donc pu ni entendre le signal échangé entre Florence et Michel, ni apercevoir celui-ci, caché qu'il était par le fiacre qui cheminait lentement au milieu de la chaussée. L'homme au manteau commença donc de suivre pas à pas Madame de Luceval, de même que la femme restée dans la voiture ne quittait pas Michel du regard.